en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Bonjour, il y a 4,5 milliards d'années, naissait le système solaire dans une nébuleuse solaire. Toutes les particules de cette nébuleuse, restes d'une supernova, autrement dit une grosse étoile, se sont mises tranquillement à s'attirer les unes les autres. À force de tourner, ce nuage s'est échauffé et au centre, la matière s'est contractée sur elle-même, donnant naissance à une étoile, notre Soleil. L'Académie des sciences s'est penchée sur le processus de naissance de nos planètes dans un colloque consacré à la formation du système solaire, c'était en février 2007. Astrophysiciens, chercheurs, académiciens, ils reviennent en détail sur la formation des premiers grains qui devinrent au cours des millénaires planétésimaux avant de naître planète. Auparavant, évoquons dans cette première partie le contexte astrophysique de la naissance du système solaire. Mathieu Gounel, du Muséum National d'Histoire Naturelle, et Thierry Montmerle, du Laboratoire d'Astrophysique de l'Observatoire de Grenoble, développent leurs connaissances sur la naissance du Soleil. Mais tout de suite, débutons par l'intervention de Marc Chaussidon, directeur de recherche au Centre de Recherche Pétrographique et Géochimique. Sa communication porte sur l'origine des radioactivités éteintes dans les météorites. Dans quel environnement est né le système solaire? Quel a été le processus de formation et à quelle vitesse? On l'écoute.
Parmi les grandes questions qui se posent et auxquelles les radioactivités éteintes peuvent permettre de répondre, on peut essayer de comprendre dans quel environnement astrophysique est né le système solaire, quels sont les processus physiques, chimiques qui ont conduit à la formation des premiers solides, comment on est passé du gaz aux premiers grains et des premiers grains aux premières planètes, et évidemment, la place du paramètre temps dans toute cette évolution, c'est-à-dire à quelle vitesse se sont déroulés ces processus, combien de temps ça a pris de fabriquer les premiers grains et de fabriquer les premières planètes. Alors on peut arriver à étudier ces processus parce qu'on a la chance dans les tiroirs des musées d'avoir des météorites primitives qui datent de la formation du système solaire, c'est-à-dire qui datent d'une époque où les planètes n'étaient pas encore formées dans le système solaire. Alors ces météorites, en voici une en photo, ça s'appelle des chondrites. Ici vous avez une photo d'une lame mince en lumière transmise, on voit les constituants de cette chondrite. Cette chondrite en fait est appelée ainsi parce qu'elle contient des billes de silicate qu'on appelle des chondres, qui sont des billes de silicate des sphères qu'on voit ici, qui ont été fondues à haute température et refroidies dans le gaz de la nébuleuse. Ces billes sont agglomérées entre elles par une matrice noire qu'on voit ici et elles donnent en fait la structure de cette roche et en fait une structure d'une roche sédimentaire. On a l'impression d'avoir un sédiment fabriqué par accumulation des constituants qui étaient dans le disque d'accrétion. Et quand on regarde la composition chimique de ces roches, on s'aperçoit que, évidemment, à l'exception des éléments des gaz, puisque c'est une roche, cette roche a la même composition chimique que le Soleil, c'est-à-dire qu'effectivement, elle a une composition chimique moyenne qui est celle du système solaire, c'est-à-dire c'est un échantillon représentatif du système solaire et du Soleil au début de son évolution. Ces chondrites contiennent en outre des agglomérats de minéraux réfractaires, des oxydes de calcium et d'aluminium, des silicates de calcium et d'aluminium, qu'on appelle des inclusions réfractaires, ou CI en anglais, et qui sont considérés comme les constituants les plus primitifs, les plus anciens des chondrites, parce qu'ils sont ceux qui sont formés à plus haute température, donc le plus tôt, peut-être à proximité du Soleil, et parce que les chronologies à longue période montrent que ces constituants sont ceux qui ont les âges les plus anciens. Et une grande découverte qui a été faite il y a une trentaine d'années a été de montrer que ces inclusions réfractaires contenaient à l'intérieur, dans leur structure cristalline, des anomalies isotopiques qui étaient liées à la décroissance radioactive in situ d'isotopes radioactifs à courte période. Alors depuis cette découverte faite par des moyens classiques de spectrométrie de masse, au cours des dernières années, les techniques d'analyse in situ par sonde ionique notamment sont développées et donc ont permis, grâce à ces techniques, on peut pulvériser sélectivement la surface d'un échantillon avec un faisceau d'ions et par spectrométrie de masse analyser la composition chimique et la composition isotopique des atomes qui constituent l'échantillon. Ici, vous voyez un cratère fait de quelques microns cubes fait dans une de ces inclusions réfractaires. Et on peut ainsi très précisément mesurer ces anomalies isotopiques et les quantifier et voir le détail de leur organisation dans ces roches. Alors, ici, vous voyez, pour bien faire comprendre ces radioactivités éteintes, le cas de l'aluminium-26, qui est la première radioactivité éteinte à courte période qui a été découverte par le groupe de Caltech il y a une trentaine d'années. Alors l'aluminium aujourd'hui sur Terre est monoisotopique et c'est de l'aluminium-27 qui est un isotope stable, mais il existe aussi un isotope radioactif de l'aluminium de masse 26 qui désintègre par désintégration bêta- pour donner du magnésium-26 avec une demi-vie de 730 000 ans. Et quand on écrit le bilan de masse du magnésium dans un échantillon, si de l'aluminium-26 était présent au départ, là, en fait la quantité de magnésium-26 qui est aujourd'hui dans l'échantillon, c'est la quantité qu'il y avait au départ plus la quantité qui provient de la désintégration de l'aluminium-26. Et on peut donc écrire une équation qui décrit la composition isotopique du magnésium en fonction du rapport de concentration père-fils aluminium sur magnésium dans l'échantillon, et on prédit une droite qui est observée dans les échantillons. Vous voyez ici que différents minéraux de cette inclusion réfractaire s'alignent sur une droite dont la pente est, nous donne en fait le rapport isotopique de l'aluminium au moment de la formation de cet échantillon, qui est ici de l'ordre de 5 × 10⁵. Parce que ce rapport isotopique est très supérieur au bruit de fond galactique, il faut une source nucléosynthétique pour l'aluminium 26 qui est contemporaine à la formation du système solaire. Et c'est de là que vient l'idée d'une supernova qui aurait été contemporaine à la formation du système solaire et qui aurait produit cet aluminium 26 qu'on trouve dans les météorites. En plus de ça, cet aluminium 26 est très intéressant parce que la pente de cet isochrone ici, qui donne le rapport isotopique de l'aluminium, change avec le temps. Elle décroît simplement selon la loi de la radioactivité en fonction de exponentielle de moins lambda t. C'est-à-dire que cette pente va diminuer d'un facteur 2 en 730 000 ans. Et donc on peut utiliser, comparer les compositions isotopiques de l'aluminium dans différents objets pour essayer de bâtir des chronologies relatives. Et c'est ce qui est montré dans ce diagramme où on voit deux histogrammes qui montrent la variation des rapports isotopiques de l'aluminium dans les inclusions réfractaires comparée aux variations des rapports isotopiques de l'aluminium dans les chondres. Et vous voyez que les chondres sont caractérisés par des rapports isotopiques de l'aluminium plus bas que dans les inclusions réfractaires. Et si on interprète cette différence de temps en âge, on en arrive à dire que les chondres se sont formés entre 1 et 3 millions d'années après les inclusions réfractaires. Et comme les chondres sont trouvés dans les chondrites associées au CAI, on peut dire que cette roche s'est condensée dans le gaz de la nébuleuse, c'est comme ça qu'on l'interprète, on peut dire que donc les processus nébulaires de haute température ont duré de l'ordre de quelques millions d'années. C'est ce que nous dit l'aluminium 26. Le problème, c'est que cette interprétation repose très fortement sur une supposition qui est qu'il existe un temps zéro dans le système solaire où l'aluminium 26 était homogène et avait la même valeur partout, c'est-à-dire qu'on interprète uniquement les variations de concentration en aluminium 26 comme des variations de temps et pas comme des hétérogénéités de la nébuleuse. Et en fait, les dernières études sur le sujet montrent qu'en fait l'aluminium 26 est sans doute plus compliqué que ça. On voit par exemple en haut à droite des variations de rapport isotopique de l'aluminium 26 dans des inclusions réfractaires où ça varie en fait entre 7 et 5 × 10⁵. Alors peut-être ça veut dire que les inclusions réfractaires se sont condensées sur des intervalles de temps de quelques centaines de milliers d'années, ou alors qu'elles se sont toutes formées en même temps, mais dans des endroits où la composition isotopique de l'aluminium 26 était différente. On voit ici le cas aussi d'une autre inclusion réfractaire qui contient un minéral qui s'appelle une libonite et qui est en fait un minéral extrêmement réfractaire. D'après la séquence de condensation, cette CAI devrait être plus ancienne que les CAI qui ont des rapports de l'ordre de 5 × 10⁵. Et vous voyez dans ce diagramme que cette CAI ici a en fait un rapport isotopique de l'aluminium bien plus bas que le rapport de 5 × 10⁵. Donc là encore, on a l'impression que l'aluminium 26 est contraire, n'est pas effectivement tout à fait en accord avec les idées que l'on a sur la chronologie. Alors, donc, la question de fond est d'essayer de savoir quelle était la distribution de ces radioactivités éteintes dans le disque d'accrétion solaire. Et on peut faire des prédictions quant à cette question, et ces prédictions dépendent énormément de la source nucléosynthétique de l'aluminium 26 et des radioactivités éteintes. Donc l'hypothèse communément admise depuis de nombreuses années, c'est que la source essentielle est une source externe au système solaire, c'est-à-dire que ces radioactivités éteintes, notamment l'aluminium 26, ont été produites par des processus de nucléosynthèse dans une étoile en fin de vie. Et à ce moment-là, on comprend que l'on peut avoir on peut essayer de faire des prédictions quant à la quantité d'aluminium 26 dans le système solaire, simplement par exemple en tenant compte de la distance entre la supernova et le système solaire, donc du temps de trajet des éjectats de la supernova, les rapports de mélange entre les produits de la supernova et le système solaire et les processus de mélange dans le système solaire. Alors, bien que cette hypothèse soit l'hypothèse canonique que la majorité des gens retient, il existe aussi une autre hypothèse qui est une source interne dans laquelle, en fait, les radioactivités éteintes pourraient être produites par des processus d'irradiation, de spallation autour du Soleil jeune. Et une telle hypothèse a des prédictions différentes sur les quantités de ces radioactivités éteintes qui sont produites et sur leur distribution dans le système solaire. Alors cette idée était en fait une idée très ancienne qui avait été émise par Fred Hoyle il y a plus de 40 ans pour essayer d'expliquer la concentration en deutérium du système solaire. Et comme ensuite le deutérium a été expliqué par la nucléosynthèse primordiale lors du Big Bang, cette hypothèse a été abandonnée. Mais en fait, le processus, même si ça n'explique pas le deutérium, le processus en lui-même existe. Et donc, vous voyez ici un dessin qui décrivait comment Fred Hoyle voyait ces processus d'irradiation, où on voit en fait des protons de haute énergie qui sont émis par le Soleil et qui vont aller faire des réactions de spallation à la surface de planétésimaux dans le disque d'accrétion. Alors, ce type de modèle a été remis au goût du jour par les travaux de Frank Shu il y a quelques années, qui, pour, en essayant de décrire le couplage électromagnétique entre le disque d'accrétion et l'étoile en formation, a montré que l'accrétion devait se faire par des chenaux d'accrétion et ménager un espace qui était vide à proximité du Soleil, sur des distances de l'ordre de 0,06 unités astronomiques. Et dans cet espace vide, les solides qui pouvaient survivre étaient les solides très réfractaires, donc a priori les précurseurs des inclusions réfractaires, et ces solides étaient ici exposés directement aux rayons cosmiques venant du Soleil, qui ne sont pas écrantés par un gaz, puisque cet endroit est vide. Et donc ça fournit un cadre physique dans lequel on peut imaginer de faire des processus d'irradiation intense sur ces solides réfractaires à proximité du Soleil. Ensuite, ces solides peuvent être éjectés par ce qu'il appelle le vent X, et ont des trajectoires paraboliques et vont retomber sur le disque d'accrétion à des distances de plusieurs unités astronomiques. Donc les travaux que nous avons faits ces dernières années ont consisté à essayer de trouver des arguments, des preuves dans les météorites de ces réactions de spallation, et pour ça on s'est intéressé aux éléments chimiques lithium, beryllium, bore, qui sont des éléments qui sont produits spécifiquement par des réactions de spallation, puisque ce sont des éléments qui ne sont pas stables dans les étoiles, donc il n'y a pas de nucléosynthèse stellaire importante pour ces éléments-là. En plus de ça, le beryllium, qui a comme isotope stable l'isotope de masse 9, possède deux isotopes radioactifs. Donc l'un est le beryllium 10, qui se désintègre par désintégration bêta- pour donner du bore 10, avec une demi-vie de 1,5 million d'années. Et l'autre est le beryllium 7, qui se désintègre par capture électronique, avec une demi-vie de 53 jours, pour donner du lithium 7. Évidemment, si l'on trouve du beryllium 7, des traces de la désintégration du beryllium 7 dans une inclusion réfractaire, à cause de son extrême courte durée de vie, de 53 jours, le fait de le trouver veut dire que la nucléosynthèse du beryllium 7 s'est faite en même temps que la formation de l'inclusion réfractaire. Alors nous avons trouvé des traces de la désintégration de ces deux isotopes radioactifs dans des CAI. Ici vous voyez les deux diagrammes isochrones, celui de gauche pour le beryllium 10, vous voyez que la composition isotopique du bore est positivement corrélée au rapport de concentration père-fils beryllium sur bore. La pente de la droite donne le rapport isotopique du beryllium, beryllium 10 sur 9, lors de la formation de cette inclusion réfractaire, et ce rapport est de l'ordre de 10-3. Celui de droite montre un exemple, et c'est le meilleur exemple que l'on ait, il y en a beaucoup moins où on puisse le démontrer, de variation de la composition isotopique du lithium avec des enrichissements en lithium 7 qui sont positivement corrélés au rapport de concentration beryllium sur lithium. Et donc cette corrélation peut être interprétée comme la preuve de la décroissance in situ du beryllium 7. Et la pente de cet isochrone donne le rapport isotopique du beryllium 7 sur 9, qui est de l'ordre de 6-10-3. Donc il existe, ces radioactivités éteintes existent, et c'est un argument très fort pour dire que ces processus d'irradiation étaient présents lors de la formation du système solaire. Donc si on regarde la liste des radioactivités éteintes à courte période qui sont identifiées dans les chondrites, on a donc les deux radioactivités éteintes du beryllium, qui démontrent l'existence d'une source interne par des processus d'irradiation. On a l'aluminium 26 et ensuite une série d'autres radioactivités éteintes, le chlore 36, le calcium 41, le manganèse 53 et le fer 60, qui a une demi-vie de 1,5 million d'années. Et le fer 60 est un noyau riche en neutrons qui est produit d'une manière très très inefficace par les processus d'irradiation. Et donc tout le monde considère que le fer 60 ne peut être produit qu'en quantité et significative que par des processus de nucléosynthèse, en fait la nucléosynthèse explosive dans une supernova. Donc l'existence du fer 60 dans les inclusions réfractaires est considérée comme une preuve de l'existence d'une source externe et de la contamination du système solaire par des produits de supernova. Toute la question est de savoir quelle est la source de toutes ces autres radioactivités atteintes ici, quelle est la fraction de l'aluminium 26 ou du calcium 41 qui provient d'une source interne ou qui provient d'une source externe. Alors, le cas du fer 60 n'est pas aussi simple parce que sa présence est avérée dans le système solaire. Vous voyez ici une magnifique isochrone dans des sulfures d'une météorite de Semarcona qui montre que le rapport isotopique 60 sur 56 était de l'ordre de 9-10-7. Mais vous voyez aussi des travaux, depuis les travaux de Birk sur le sujet et les travaux récents de Guylaine Quitté, montrent que en fait, la quantité de le rapport isotopique du fer dans les inclusions réfractaires pour lesquelles l'aluminium 26 est bien connu, est en fait très variable, très mal contrainte, et on a juste une gamme de variations entre 4-10-7 et 5-10-6. Et on a en fait pas d'évidence d'une distribution homogène du fer 60. Alors comment avancer maintenant ? Donc il y a plusieurs manières qu'on peut imaginer pour avancer. Donc Mathieu Gounel vous montrera après moi comment on peut essayer de modéliser ces différents scénarios, notamment l'irradiation, et voir ce que ces modèles d'irradiation prédisent. Thierry Bonmerle montrera comment on peut confronter ces données des météorites avec les données astrophysiques. Évidemment, l'autre voie est d'essayer de raffiner les observations dans les météorites en utilisant les développements technologiques qui sont récents d'analyse in situ pour essayer de tester l'homogénéité des distributions initiales dans les météorites, essayer de tester la cohérence, le synchronisme entre les différents systèmes. Alors, il faut bien avoir en tête que le fait qu'il y ait une homogénéité isotopique des systèmes n'est pas une condition absolument absolue pour les utiliser comme des chronomètres. Et on peut, Mathieu Gounel a montré qu'on pouvait aussi concevoir des chronologies relatives à partir d'une distribution hétérogène des radioactivités éteintes. Elles sont plus compliquées à mettre en œuvre, mais on peut y arriver. Donc on peut imaginer de chercher de nouvelles radioactivités éteintes, évidemment, et de caler ces radioactivités éteintes avec les chronologies absolues. Donc dans la dernière partie de l'exposé, je vais montrer quelques exemples, deux exemples de ces calages. Donc un exemple ici, le premier qui compare les rapports isotopiques du béryllium-10, les quantités de béryllium-10 et les quantités d'aluminium-26 dans les inclusions réfractaires. Alors les barres d'erreur sont encore grandes, donc c'est avec les barres d'erreur qu'il y a là, on ne peut pas dire grand-chose. Mais vous voyez ici que les gammes de variation de l'aluminium-26 et du béryllium-10 dans ces inclusions réfractaires sont d'un facteur 2 ou 3, c'est-à-dire de plusieurs périodes pour les deux systèmes, et que ces variations ne peuvent pas s'expliquer simplement par une décroissance radioactive à partir d'une valeur de départ. Ici, vous avez la courbe qui montrerait l'endroit où devrait se trouver l'évolution du rapport isotopique de l'aluminium et du béryllium si on partait de cette composition et qu'on la laissait simplement vieillir. Et vous voyez que les points sont en dehors de cette courbe. Et donc, on ne peut pas uniquement expliquer les variations de l'aluminium-26 et du béryllium-10 par simplement le temps qui passe et une composition isotopique homogène au départ. Alors, un autre exemple pour essayer de caler, d'intercomparer le fer-60 et l'aluminium-26. Alors, c'est des choses qui sont difficiles à faire parce que, techniquement, il faut trouver des échantillons dans lesquels la mesure du fer-60 et la mesure de l'aluminium-26 sont possibles dans les mêmes minéraux. Ici, vous avez une roche qui est une eucrite, une météorite différenciée, dans laquelle existent des cristaux d'origine magmatique, de sulfure, qui coexistent avec des plagioclases. Ici, vous avez la carte de l'aluminium, donc vous voyez les feldspathes plagioclases. Ici, vous avez la carte du fer. Ici, des oxydes et des sulfures. Ici, vous voyez les sulfures. Donc, les sulfures ont des très grands rapports fer sur nickel de concentration, donc sont favorables à la détection du fer-60. Les plagioclases ont des forts rapports de concentration aluminium sur magnésium et sont favorables à la détection de l'aluminium-26. Quand on analyse les sulfures, on trouve effectivement des grandes anomalies isotopiques du nickel qui sont corrélées au rapport fer sur nickel et qui donc indiquent la présence de fer-60 dans ces sulfures avec un rapport isotopique du fer de l'ordre de 7-10-7. Si maintenant on regarde les compositions isotopiques de l'aluminium dans les feldspathes, on a des variations isotopiques du magnésium qui sont très faibles, malgré les rapports aluminium sur magnésium très élevés. On peut juste imaginer de mettre une limite maximum à la quantité d'aluminium-26 qu'il y avait présente lors de la cristallisation ou du refroidissement de ces plagioclases, et ça donne un rapport isotopique d'aluminium de l'ordre de 3-10-8. Alors si on compare ce rapport de 3-10-8 avec la valeur des CAI, on trouve, et si on l'interprète uniquement en temps qui passe, on trouve environ 8 millions d'années. Et si à ce moment-là, on recalcule à partir du rapport fer-60 mesuré dans les sulfures, et on recalcule 8 millions d'années en arrière, quel était le rapport 8 millions d'années avant, on trouve une valeur énorme, très très élevée, du rapport fer-60 sur 56 de l'ordre de 3-10-5, qui est incompatible avec les mesures qui sont faites dans les CAI. Donc ce genre d'incohérence entre les systèmes isotopiques peut s'expliquer par notamment une hétérogénéité des distributions de ces isotopes radioactifs, notamment du fer-60, peut-être même son injection tardive dans le système solaire. Malgré ça, je ne voudrais pas laisser l'idée qu'on ne peut tirer aucune information de ces radioactivités éteintes. Et je pense qu'une des informations importantes pour la différenciation est que l'accrétion de ces objets doit se faire très vite. Ici, vous avez un diagramme qui montre le bilan thermique d'un astéroïde. On voit le calcul de la température de fusion en fonction du temps d'accrétion, si on tient compte de la chaleur produite par la désintégration de l'aluminium-26 et du fer-60. Et en fait, on voit que pour différencier un astéroïde en 3 millions d'années, il faut emprisonner la chaleur très tôt à l'intérieur de l'astéroïde et donc l'accréter à 700 000 ans. Donc, en fait, ces radioactivités éteintes, si elles sont la source de chaleur responsable de la différenciation de ces objets, impliquent que l'accrétion s'est faite très tôt. Donc, en conclusion, je voudrais insister sur trois points. D'abord, les processus d'irradiation autour du Soleil jeune ont joué un rôle important dans la formation des premiers solides. Deux sources sont à considérer pour l'origine des radioactivités éteintes, la source interne qui est démontrée par les isotopes du béryllium, la source externe qui est démontrée par les isotopes du fer. Et là, la condensation des premiers solides et l'accrétion des premiers planétésimaux s'est faite très vite, en quelques millions d'années, alors que le Soleil était peut-être encore dans sa phase thétaoïde.
Vous venez d'entendre Marc Chaussidon, géologue, directeur de recherche au Centre de recherche pétrographique et géochimique. Il revenait sur l'origine des radioactivités éteintes dans les météorites. Poursuivons par l'intervention de Mathieu Gounel, géophysicien au Muséum national d'histoire naturelle. Son intervention porte sur l'irradiation du disque d'accrétion par le soleil jeune.
Monsieur le Président, mesdames et messieurs, je vais donc essayer de vous parler des phénomènes d'irradiation qui ont lieu à l'interface entre le jeune soleil et le disque d'accrétion il y a 4,5 milliards d'années. Donc comme Marc Chaussidon vient de le dire, on a découvert un grand nombre ces 20 ou 30 dernières années de radioactivité éteinte dans les météorites, depuis le beryllium-7 de demi-vie 53 jours jusqu'au fer-60 qui a une période de 1,5 million d'années. Il y a trois sources possibles pour ces radioactivités désormais éteintes de courte période. Soit elles proviennent de la capture du rayonnement cosmique par le cœur moléculaire, je reviendrai là-dessus, cela ne marcherait uniquement que pour le beryllium-10. Elles pourraient avoir une origine stellaire externe, Marc l'a déjà mentionné, comme une supernova, ou elles auraient pu être produites par irradiation dans le disque protoplanétaire lui-même. Donc pour ce qui est du beryllium-10, le beryllium-10 a un statut un peu particulier, dans la mesure où les isotopes du beryllium sont détruits dans le cœur des étoiles, donc ils ne peuvent pas avoir une origine stellaire, provenir ni d'une supernova, ni d'une géante rouge. Donc la découverte du beryllium-10 en 2000 par McKeegan, Chaussidon et Robert a été la première preuve indiscutable de l'irradiation dans le système solaire. Vous reconnaissez ici le diagramme isochrone correspondant à la découverte du beryllium-10. Cependant, quelques années après la découverte du beryllium-10, Desch et collaborateurs ont proposé que cet élément radioactif a pu être capturé par le cœur moléculaire. Le mécanisme est très très simple, le cœur moléculaire dans lequel, qui va donner bientôt naissance à notre étoile, est traversé par le rayonnement cosmique galactique, et si la densité de ce cœur est suffisante, eh bien le rayonnement cosmique galactique va être arrêté et prisonnier dans le cœur moléculaire. Donc toute l'idée est basée sur le fait que le beryllium-10, comme on le sait depuis les années 70, est abondant dans le rayonnement cosmique. Donc évidemment, le nombre d'atomes de beryllium-10 que vous capturez par ce mécanisme est proportionnel au temps de capture, à la densité du cœur moléculaire et au flux du rayonnement cosmique. Et dans le modèle choisi par Desch et collaborateurs, eh bien, il se trouve que la masse dont ils ont besoin pour effectuer, la masse du cœur dont ils ont besoin pour effectuer ce piégeage est trop élevée, 45 masses solaires, alors qu'on pense que le cœur qui a donné naissance à notre étoile a plutôt une masse de l'ordre d'une masse solaire. Ils ont besoin d'un temps de vie du cœur de 10 millions d'années, alors que les dernières observations des cœurs moléculaires indiquent que les temps de vie de ces objets est plutôt de 1 à 2 millions d'années. Et enfin, ils ont besoin d'un accroissement ad hoc, d'un facteur 2, du flux de rayonnement cosmique il y a 4,5 milliards d'années. Donc ce mécanisme ne semble pas très bien reproduire l'abondance du beryllium-10 dans le système solaire primitif. En outre, Desch et collaborateurs finissent leur papier par une prédiction en disant que si leur modèle est juste, eh bien, le système beryllium-bor serait un excellent chronomètre. Et il se trouve que les âges que l'on peut calculer à partir des données en beryllium-bor des inclusions réfractaires des chondrites CV3 ont une dispersion de quelques millions d'années, alors que très récemment, Bizarro et collaborateurs ont montré que les inclusions réfractaires des CV3 se forment sur un intervalle de temps très court, inférieur à 0,1 million d'années. Donc pour toutes ces raisons, on peut rejeter le modèle de capture du beryllium-10 par le cœur moléculaire. Et donc on peut supposer que le beryllium-10 a bien été fait par irradiation. Donc les trois questions que l'on peut se poser désormais sont le lieu de l'irradiation, à quel endroit du disque cette irradiation s'est-elle formée, les conditions physiques de cette même irradiation, le flux du rayonnement cosmique, le temps d'irradiation, l'abondance relative des différentes particules, et enfin, est-ce qu'en même temps que le beryllium-10, on va coproduire d'autres radioactivités éteintes, en même temps que le beryllium-10 et le beryllium-7, parce que, comme l'a dit Marc tout à l'heure, le beryllium-7, évidemment, lui aussi n'a pu être formé que par irradiation. Donc le beryllium-10 et le beryllium-7 sont un peu nos deux pierres de touche pour ce qui est de l'irradiation dans le système solaire primitif. Donc le lieu de l'irradiation, il a été proposé que ce lieu puisse être la ceinture d'astéroïdes. Ça ne marche pas du tout, parce que si vous avez des protons qui sont émis par le jeune soleil, eh bien ils doivent traverser tout le disque avant de parvenir à la ceinture d'astéroïdes, et la densité surfacique du disque est beaucoup trop élevée pour que ce mécanisme fonctionne. En revanche, si vous irradiez près du Soleil, eh bien, les protons ont un accès direct à la matière solide au bord du disque et l'irradiation est extrêmement efficace. Reste à trouver un mécanisme de transport depuis le bord du disque jusqu'aux distances astéroïdales. Donc il y a un modèle qui donne naturellement cette irradiation près du disque et ce mécanisme de transport, c'est le modèle dit du vent X, qui est un modèle d'un astrophysicien destiné à expliquer les jets dans les proto-étoiles. Et donc, dans ce modèle, l'irradiation se fait à cet endroit, dans le bandeau de reconnexion. C'est là où se fait la reconnexion des lignes de champ magnétique de l'étoile et du disque que vous avez ici. L'irradiation est très efficace car vous êtes dans un milieu magnétiquement confiné. Et après irradiation, vous avez transport des inclusions réfractaires irradiées aux distances astéroïdales, là où les chondrites se forment. Donc, un mécanisme très simple. Les paramètres des modèles d'irradiation sont également relativement simples. Si vous avez une réaction nucléaire, cible plus rayon cosmique qui vous donne une radioactivité, eh bien, vous pouvez écrire que le nombre d'éléments radioactifs dépend essentiellement du flux de rayonnement cosmique, du temps d'irradiation et des sections efficaces de réactions nucléaires convoluées sur la distribution en énergie de votre flux de rayonnement cosmique. Évidemment, un paramètre essentiel là-dedans est l'abondance de vos cibles que l'on dénote par XJ. Donc, pour fixer un petit peu les idées, on adopte une chimie pour nos cibles qui est une chimie chondritique et on va adopter dans le rayonnement cosmique solaire qui irradie nos cibles un rapport hélium-4, donc particule alpha sur proton de 0,1. On utilise des sections efficaces qui sont mesurées quand on le peut, ou quand elles ne le sont pas calculées. Donc ici, vous avez les sections efficaces de production de beryllium-7 en trait plein et du beryllium-10 en trait pointillé pour les différents réactants, et les points correspondent à des mesures expérimentales. Donc dans le cas du beryllium-7 et du beryllium-10, les sections efficaces ne sont pas trop mal connues. Dans le cas de l'amélium-26, on a bénéficié récemment d'un très beau travail fait à Orsay de la mesure d'une section efficace. Magnésium-24, hélium-3 donne aluminium-26. Et puis, pour le reste, on se contente de simuler ces sections efficaces. Donc les paramètres libres du modèle sont l'abondance d'hélium-3, relativement à l'hydrogène, la distribution en énergie des protons, que l'on suppose être une loi de puissance, N2E, qui varie comme E à la puissance moins P, donc notre paramètre libre, c'est ce paramètre P, le temps d'irradiation delta T, et enfin le flux de protons, que l'on appelle F0. Donc, pour ce qui est de la synthèse isotope du beryllium, j'ai déjà insisté à la suite de Marc sur le fait que le beryllium-10 et le beryllium-7 ne peuvent avoir qu'une origine par irradiation. Donc ici, on porte la valeur du rapport beryllium-10 sur beryllium-7 normalisée à ce qu'on a observé dans le système solaire, à ce que Marc et ses collaborateurs observent dans le système solaire, en fonction des différents paramètres du modèle, et en particulier du rapport hélium-3 sur hydrogène, pour un temps d'irradiation qui varie entre 1 à 10 ans. Et ce que l'on voit sur ce diagramme, et on a trois courbes pour différentes valeurs du P qui caractérise la distribution en énergie des protons. Et donc ce que ce diagramme vous montre, c'est que pour des rapports hélium-3 sur hydrogène, donc hélium-3 sur proton relativement élevé, de l'ordre de 0,3, et des pentes de la distribution en énergie relativement élevée, on peut reproduire un facteur de 4 ou 5 près le rapport beryllium-10 sur beryllium-7 observé dans le système solaire. Et cela, on y parvient parce que notre modèle utilise des flux de protons élevés nécessaires à la production des beryllium-7 et parce que notre modèle aussi naturellement utilise des temps d'irradiation courts nécessaires à la production du beryllium-10. Les paramètres que l'on identifie, le rapport hélium-3 sur proton de 0,3 et la pente de la distribution en énergie de 4 correspond à des événements que dans le Soleil on appelle des éruptions de type impulsif, j'y reviendrai dans un instant. Donc l'autre question que on arrive à reproduire le beryllium-10 et le beryllium-7, mais quid des autres radioactivités éteintes? Donc encore une fois, vous avez un diagramme où vous avez la production dans notre modèle des différentes radioactivités éteintes normalisées à la valeur mesurée dans le système solaire. Donc pour le beryllium-7 et pour le beryllium-10, vous voyez qu'il y a un bon accord dans notre modèle, c'est ce que je vous disais à l'instant, mais c'est également le cas pour les autres radioactivités éteintes comme l'alium 26, le chlore 36, le calcium 41 ou le manganèse 53. Évidemment, nous ne pouvons pas faire le fer 60 qui est trop riche en neutrons comme Marc l'a mentionné tout à l'heure. Donc les éruptions de type impulsif, c'est quelque chose qui est connu depuis assez longtemps dans le Soleil. Ce sont des événements qui sont extrêmement fréquents et qui ont la propriété d'être riches en hélium 3, qui peuvent avoir des rapports hélium 3 sur protons aussi élevés que 3, et qui ont des spectres en énergie relativement durs, qui correspondent à des P élevés, comme ce que l'on trouve dans notre modèle. Et ces événements de type impulsif sont également des émetteurs de rayons X durs. Donc il semblerait que les paramètres que l'on ait identifiés, nécessaires à la synthèse du béryllium-7 et du béryllium-10, correspondent à ces événements que l'on observe fréquemment dans le Soleil. Soleil contemporain, bien sûr. Un point très important, c'est que, très récemment, il y a eu des observations assez extraordinaires des proto-étoiles dans le domaine des rayons X. Donc ce sont des observations qui ont été réalisées dans la nébuleuse d'Orion, et c'est une étude de 28 étoiles de masse solaire pendant 13,2 jours, réalisée grâce au satellite Chandra. Donc c'est un temps d'observation extrêmement long pour des rayons X, des ordres de grandeur supérieurs à ce qui avait été fait auparavant. Toutes ou presque les proto-étoiles ont une activité X extrêmement élevée. Sur ce diagramme, tous les points verts correspondent chacun à une proto-étoile, et il y a seulement deux proto-étoiles, vous voyez ici, pour lesquelles l'activité X n'a pas été détectée. Donc vraiment une activité X absolument partout dans les proto-étoiles. Cette activité X est élevée et variable, et il semblerait en analogie avec le Soleil contemporain, on peut penser que cette activité X est associée à l'accélération de particules chargées. Donc c'est l'indication qu'il y a bien des particules chargées autour des jeunes étoiles en train de se former, comme nous le supposons dans notre modèle d'irradiation. Donc maintenant, si on compare ces résultats à notre modèle, l'affluence estimée par les auteurs de cette étude, Volk et collaborateurs, est 10^5 fois l'affluence en protons du Soleil contemporain, donc très élevée, et c'est complètement compatible avec la valeur que nous utilisons dans le modèle du vent X. Donc ici, vous avez un diagramme, un histogramme de la luminosité mesurée par ces auteurs, et la flèche correspond à la luminosité X que nous utilisons dans notre modèle et que nous avons utilisé antérieurement à ces observations. En outre, ces auteurs mentionnent que la phase impulsive dans ces jeunes étoiles est souvent présente. Donc, ces observations X vont dans le sens de notre modèle. Cependant, notre modèle a bien des vices, en plus d'avoir des vertus. Et si les événements impulsifs sont bien connus et qu'on commence à les voir dans les proto-étoiles, peut-être, eh bien, on utilise un rapport hélium 3 sur hélium 4, peut-être un petit peu trop élevé par rapport à ce que l'on sait de ces événements impulsifs. Donc ici, vous avez une distribution des valeurs hélium 3, hélium 4 dans les événements impulsifs du Soleil contemporain, et la valeur que nous utilisons est vraiment à l'extrémité droite de cette distribution. De la même façon, nous avons besoin d'un spectre en énergie relativement pentu par rapport à ce que l'on sait. Enfin, un problème inévitable de notre modèle, c'est que les sections efficaces de production des différentes radioactivités éteintes sont mal connues, pour certaines en tout cas, et en particulier pour l'importante réaction hélium-3 plus calcium-40 donne calcium-41. On a déjà mentionné à plusieurs reprises que nous ne pouvons pas faire le fer-60. Ce modèle a cependant bien des vertus qui sont un accord avec les observations des proto-étoiles dans le domaine des X, c'est ce que je viens de dire, et que la reproduction des abondances des radioactivités éteintes est faite à un facteur 5 près, et c'est plutôt mieux que les modèles de supernova qui essayent de faire la même chose. Donc ici, vous avez différents modèles de supernova, c'est le même type de diagramme que j'ai montré tout à l'heure, et la bande grise correspond à ce que nous trouvons nous. Donc on est plutôt mieux que les modèles de supernova qui en particulier systématiquement surproduisent le manganèse 53 et le fer 60. Enfin, une vertu à mon sens très importante du modèle du vent X, c'est sa nature prédictive. Nous avons estimé le rapport béryllium 7 sur béryllium 9 avant qu'il ne fût mesuré par Marc Chaussidon et collaborateurs, et nous avons bien prédit la valeur qu'ils ont trouvée à un facteur 2 près, ce qui, compte tenu des incertitudes du modèle, est tout à fait satisfaisant. Enfin, en 1996, donc tout au début de ces travaux, Franck Chou et son collaborateur et ses collaborateurs ont prédit que l'on trouverait des inclusions réfractaires dans les comètes. Donc c'était en 1996, à l'époque, ça a fait sinon rire, mais beaucoup de gens l'ont raillé. Eh bien, en 2006, avec les résultats de la sonde Stardust, on a découvert dans la comète Ville 2 au moins une inclusion réfractaire. Donc les implications, je vais passer très très vite là-dessus, c'est la fin de l'exposé. D'abord, il y a des implications qui touchent au contexte astrophysique, donc ce sera le sujet de l'exposé de Thierry Montmel qui vous en dira beaucoup plus sur ce sujet-là. Mais en gros, il y a trois questions qui sont importantes à mon sens. A-t-on besoin d'une supernova ? La réponse est oui pour synthétiser le fer 60, mais cette supernova n'a pas besoin nécessairement d'être proche, comme il a souvent été dit. Elle peut être tout simplement située à quelques dizaines de parsecs de notre système solaire. Et l'autre question, c'est est-ce que la supernova apporte d'autres éléments radioactifs en même temps que le fer 60 ? Pas nécessairement. Donc là encore, c'est un modèle de supernova normalisé au système solaire. Vous voyez que si vous décidez d'apporter le fer 60, vous pouvez, sous des conditions extrêmement réalistes, ne pas apporter les autres radioactivités éteintes comme l'hélium-26, le chlore-36 ou le calcium-41. Enfin, nous avons récemment proposé un test de ce modèle de supernova, et ce sera la composition isotopique de l'oxygène du Soleil, bientôt mesurée par la mission spatiale Genesis, dont Bernard Marty nous parlera cet après-midi, qui nous permettra de tester les intéressants modèles d'injection des radioactivités éteintes par les supernovas dans le système solaire. Une autre implication qui est la chronologie. Si l'aluminium 26 qui a été utilisé ces 20 dernières années tout à fait extensivement pour faire de la chronologie est produit par irradiation, eh bien on ne peut plus en faire un chronomètre trivial, mais il faut développer des modèles de chronologie un peu plus complexes que ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Et je pense que ce plot illustre bien le fait que, de fait, l'aluminium 26 n'était pas distribué de façon homogène dans le système solaire, puisque si vous plottez les âges de l'aluminium 26 en fonction de l'âge plomb-plomb, eh bien, il n'y a pas du tout synchronisme qui serait représenté par cette ligne. Mes conclusions. Donc, l'existence même du béryllium-7 et du béryllium-10 démontre qu'il y a eu de l'irradiation dans le système solaire jeune. Le modèle du vent X fournit un cadre théorique à ces phénomènes d'irradiation. Lorsqu'on fait des calculs dans le cadre de ce modèle, on arrive à synthétiser par irradiation non seulement le béryllium-7 et le béryllium-10, mais également l'aluminium-26, le chlore-36, le calcium-41 et le manganèse-53. Pour peu que l'on choisisse des temps d'irradiation courts, des flux de particules élevés et des événements de type impulsif. Enfin, et je pense que c'est extrêmement important, que les observations des jeunes étoiles dans le domaine des X corroborent l'idée qu'il y ait pu avoir une irradiation intense dans le disque protoplanétaire.
C'était Mathieu Gounel, géophysicien au Muséum National d'Histoire Naturelle. Terminons cette première partie en compagnie de Thierry Montmerle, astrophysicien au laboratoire d'astrophysique de l'Observatoire de Grenoble. Il revient pour nous sur les premiers millions d'années du Soleil, une étoile parmi tant d'autres.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de conclure en quelque sorte cette première session de la séance d'aujourd'hui par effectivement le point de vue des astrophysiciens sur tous ces problèmes. Évidemment, le Soleil et le système solaire sont des objets astrophysiques. Le Soleil est une étoile, comme vous savez, extrêmement banale, et évidemment une partie des réponses que l'on cherche aux problèmes du système solaire sont à rechercher dans l'observation des étoiles qui ressemblent au Soleil. Et lorsque on parle des météorites, c'est-à-dire du système solaire lorsqu'il était extrêmement jeune, lorsqu'on a cité des périodes de l'ordre de quelques millions d'années, évidemment, il faut regarder ailleurs, du côté des étoiles jeunes, pour savoir si on a des éléments de réponse aux problèmes que nous nous posons. Donc j'ai intitulé mon exposé, un petit peu avec un petit clin d'œil, « La formation du système solaire, une enfance de tous les dangers ». Vous allez voir que le système solaire probablement s'est formé dans des conditions assez apocalyptiques, en fait, à tel point qu'on peut, le cas échéant, se poser la question de sa survie même dans les lieux où il s'est formé. Donc le plan que je vais suivre, c'est d'abord de vous raconter de façon extrêmement brève ce que l'on sait actuellement de la formation des étoiles dans notre galaxie, la Voie lactée. Quelles sont les premières étapes de l'évolution des étoiles de type solaire? Ce sont ces étapes qui vont après se corréler en quelque sorte avec les premières étapes de l'évolution du système solaire lui-même. Ensuite, je vais élaborer un tout petit peu sur ce que Mathieu Gounel vient de vous décrire en ce qui concerne les observations rayons X, en vous donnant un tout petit peu plus d'éléments, peut-être. Et puis ensuite, je vais vous montrer que tout en restant dans le domaine des hautes énergies, on a aujourd'hui des moyens d'étudier ces radioactivités, les radioactivités à courte période, à travers les photons qui sont émis lors de cette radioactivité. Et on peut à bon droit, je pense, maintenant parler de la galaxie radioactive. Et c'est ça qui nous donnera des indications précieuses sur le berceau ou les berceaux possibles du Soleil. Puis ensuite, je conclurai en résumant le mieux que je pourrais les idées contemporaines sur la formation du système solaire. Et vous verrez que même si Laplace avait eu un certain nombre d'intuitions qui se sont d'une certaine façon vérifiées aujourd'hui, le contexte de la formation du système solaire, évidemment, est quelque chose dont il ne pouvait pas avoir idée. Donc, lorsqu'on s'intéresse à la formation du Soleil, d'abord, on va regarder notre galaxie et donc essayer de comprendre comment les étoiles en général se forment. Alors on sait que les étoiles se forment dans des régions brillantes qui sont associées à des nuages sombres, ce sont les traînées sombres que vous voyez dans la Voie lactée par exemple, et en fait on s'aperçoit que ces régions sont extrêmement diverses, donc a priori si on cherche l'endroit où le Soleil est né, on est obligé de considérer des régions très différentes, par exemple ce sont des régions qui sont des régions de formation d'étoiles relativement proches, où ce sont principalement des étoiles de petite masse, analogue à celle du Soleil, qui se forment, dans lesquelles les étoiles réagissent peu ou pas sur leur environnement immédiat. En revanche, vous avez les grandes nébuleuses que l'on connaît, ce qu'on appelait les nébuleuses, les régions H2, c'est-à-dire des régions d'hydrogène ionisé pour les astronomes, comme la nébuleuse d'Orion, sur laquelle je vais revenir à plusieurs reprises, parce que c'est une de celles qui sont les mieux étudiées, qui est à environ 1500 années-lumière, 450 parsecs de nous. À partir de ces régions-là, les étoiles deviennent suffisamment chaudes et elles sont massives et elles réagissent sur leur environnement. Elles réagissent en ionisant le milieu, elles réagissent en émettant des vents et éventuellement, à la fin de leur évolution, elles réagissent en explosant sous forme de supernova et donc en perturbant de façon extrêmement importante le milieu dans lequel elles sont issues. Ces régions peuvent être extrêmement grandes. Vous voyez que le dernier choix que j'ai fait, ce sont des super régions de formation d'étoiles, en quelque sorte. Vous voyez à gauche la région qu'on appelle de la Carène, qui est visible de l'hémisphère sud. Et vous voyez la nébuleuse de la Rosette, la célèbre nébuleuse de la Rosette, parce qu'elle a une forme de rosette de la Légion d'honneur, qui est en bas à droite, qui est à peu près à la même échelle. Et donc, vous voyez qu'il existe dans la galaxie des régions de formation d'étoiles où les étoiles sont très nombreuses, très brillantes, en termes de masse solaire, la masse maximum que l'on considère pour les étoiles, c'est de l'ordre de 100 fois à un peu plus de 100 fois la masse du Soleil. Donc dans des régions comme ça, on a en fait des étoiles extrêmement massives qui réagissent sur leur environnement, mais on a aussi tout un ensemble d'étoiles moins massives qui sont réunies les unes aux autres par une loi de puissance en fonction de la masse qu'on appelle la fonction initiale de masse, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez des étoiles massives, vous pouvez connaître, et ça sera important pour la fin de l'exposé, vous pouvez connaître le nombre d'étoiles qui sont associées à ces étoiles, même si vous ne les voyez pas individuellement. De façon extrêmement synthétique, les premières étoiles de l'évolution de type solaire, eh bien, prenons par exemple la région d'Orion, donc celle dont j'ai déjà parlé. Quand on regarde la matière autour, c'est-à-dire non pas dans le visible, mais qu'on va dans l'infrarouge, on a accès à la matière froide, et par exemple à la poussière, et dans cette carte que vous voyez à droite, qui a été obtenue par le satellite IRAS, dans l'infrarouge lointain, vous voyez que cette matière, cette poussière, a une structure extrêmement filamentaire, c'est une structure qu'on peut aussi suivre dans le gaz, dans le domaine millimétrique, et vous voyez que la nébuleuse que je vous avais indiquée tout à l'heure, c'est la petite boîte qui est là, et donc vous avez un nuage dans lequel les étoiles sont nées, mais qui est beaucoup, beaucoup plus grand que la région de formation d'étoiles proprement dite. Et ça amène à un nouveau concept de la formation stellaire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on considère que, et c'est une idée qui est largement compatible avec la statistique des étoiles de type solaire, que les étoiles maintenant se forment non pas de façon isolée, mais elles se forment de façon collective. Et un certain nombre de travaux théoriques ont amené à simuler ce genre de comportement. Voilà par exemple le résultat de travaux faits par des collègues britanniques, Matthew Bate à Exeter. Pour l'instant, ce sont des simulations qui ne produisent pas des milliers d'étoiles, mais plutôt quelques dizaines ou éventuellement quelques centaines, mais dans lesquelles les processus fondamentaux sont indiqués. Vous voyez, vous avez un nuage qui est plein de filaments, il y a de la turbulence, et c'est au contact de ces filaments que des étoiles vont commencer à se former. Vous voyez que vous avez des espèces d'enroulements, vous avez bien sûr, c'est la gravité qui maintient le tout ensemble, et vous avez une espèce de billard cosmique dans lesquels les étoiles vont s'entrechoquer, la matière dont elles sont issues est en gravitation les unes avec les autres, et vous voyez des disques et des choses comme ça qui se passent, et donc c'est un petit peu, même si c'est simplifié dans cette version que je vous montre, le concept qu'on a aujourd'hui de la formation stellaire, c'est-à-dire non pas d'une étoile qui se forme toute seule, mais d'une étoile qui se forme dans un amas. Et ça, c'est extrêmement important pour la suite des événements. Vous voyez, dans la dernière partie de la simulation, on se concentre sur cet objet. Vous voyez, c'est en fait, vous allez assister à la naissance d'une étoile binaire. Vous avez deux étoiles qui sont entourées d'un disque circumstellaire. Et vous voyez que toutes ces étoiles sont en constante interaction dynamique. Évidemment, c'est très accéléré par rapport à la réalité. Et vous voyez, ces disques binaires que vous voyez ici sont des objets qui sont effectivement observés. Donc, formation d'étoiles en amas, c'est un des éléments clés de la formation du système solaire. Ensuite, vous avez ces phénomènes d'éjection dont on a un petit peu parlé déjà, c'est-à-dire que vous avez dans des régions de formation d'étoiles, de façon extrêmement courante, vous avez ici des structures, vous voyez, on a l'impression d'avoir un disque qui est vu par la tranche, évidemment c'est une sélection de ces images, et ensuite vous avez ces espèces de jets qui sont bipolaires, qui partent de part et d'autre du disque, et en fait on a bien l'impression d'assister à un phénomène qu'on appelle d'accrétion-éjection, c'est-à-dire que le disque va fournir de la matière à l'étoile pour qu'elle se forme, et en même temps il y a un phénomène d'éjection. Alors ça, c'était quelque chose que Laplace par exemple n'avait pas prévu, mais qui s'avère être nécessaire parce qu'il y a un problème d'évacuation du moment cinétique du système, et ces phénomènes d'éjection participent à cette évacuation qui permettent en fait la concentration de l'étoile et l'accumulation de matière. Alors ceci, c'est quelque chose qui commence à être bien compris sur le plan théorique, au moins dans les grandes lignes. C'est l'origine du phénomène du vent X que Mathieu Gounel vous a présenté, c'est-à-dire qu'on pense que l'accrétion et l'éjection sont reliées par un phénomène magnétique, c'est-à-dire que vous avez de l'accrétion qui vient du disque et qui va finir par tomber sur l'étoile, mais comme tout tourne, il y a un endroit qui est en fait l'endroit de corotation, où la matière est en équilibre entre la force centrifuge due à la rotation de l'étoile et la gravité qui va la faire tomber, et ce point est un petit peu comme le point de Lagrange, si vous voulez, et à partir de ça, la matière peut soit tomber sur l'étoile, soit être éjectée par force centrifuge. Et c'est cette région qu'on appelle la région X, X simplement parce que c'est une allusion à la forme magnétique supposée de cet environnement d'interaction entre l'étoile. Vous voyez, j'ai figuré même une étoile de type solaire avec ses régions actives et ses champs magnétiques et le disque d'accrétion. Et en fait, les calculs montrent qu'environ 70 à 90% suivant les modèles de la matière du disque est finalement accrétée sur l'étoile, mais qu'il en reste 10 à 30% qui est effectivement éjecté pour donner naissance à ces jets que vous voyez là. J'ai indiqué aussi la taille de cette structure. Vous voyez, 200 unités astronomiques, le système solaire a un rayon d'environ 50 unités astronomiques, donc le système solaire serait complètement contenu dans la région centrale de ce système. Alors, il y a un certain nombre de modèles sur la place. Les physiciens de la magnéto-hydrodynamique s'empoignent joyeusement sur un certain nombre de détails du modèle, mais je pense que les grandes caractéristiques, à savoir accrétion du disque sur l'étoile et force centrifuge qui permet d'éjecter l'étoile, c'est quelque chose sur lequel les gens sont à peu près d'accord qualitativement, et ça fournit un cadre, effectivement, d'interprétation pour nos problèmes d'irradiation dont Mathieu Gounel vous a parlé, parce que l'irradiation va suivre, en fait, l'étoile qui est devant est active, je vais vous montrer ça en rayons X, et donc effectivement, comme le modèle de Hoyle le montrait tout à l'heure, j'ai découvert ça avec Marc Chaussidon, merci de cette vérité historique, Marc, ici, peut effectivement irradier la matière du disque qui est ici. Alors voici l'histoire du système solaire et des étoiles jeunes. Voici quelques idées des distances, quelques milliers d'unités astronomiques, puis quelques centaines. Et voyez surtout les échelles de temps, puisqu'on a parlé de chronologie tout à l'heure. La phase proto-étoile, qui est vraiment la phase la plus rapide dans laquelle la matière se condense. Puis ensuite la phase dite tétori, qui dure quelques millions d'années. Et c'est dans cette phase-là que les phénomènes d'irradiation et de météorites vont pouvoir se former. C'est là où les premiers corps vont pouvoir se condenser. Dans la terminologie des gens qui étudient le système solaire, ce qu'on appelle la nébuleuse, correspond à peu près à cette phase-là, puis éventuellement nous avons bien sûr formation de planètes. Donc la durée de vie des disques peut s'estimer à partir de l'observation d'un certain nombre de régions de formation d'étoiles, dans lesquelles on fait une statistique de l'émission infrarouge proche qui teste un peu les disques internes, et on voit qu'au bout de quelques millions d'années, les disques ont complètement disparu. Anne Dutrait vous expliquera un petit peu plus de quoi il s'agit et qu'est-ce qui se passe là. Disons qu'on pense que c'est une phase qui correspond à la formation de planètes. En tous les cas, pour la suite de l'exposé, ce qu'il faut retenir, c'est que les disques ont disparu au bout de, disons, 3-4 millions d'années, et c'est important pour les affaires de supernova. Donc voilà les rayons X. Donc je vais passer rapidement parce que Mathieu en a déjà parlé. Ce qui est important quand même, c'est de voir qu'il y a un facteur énorme de plusieurs ordres de grandeur par rapport au Soleil contemporain. Donc on peut à bon droit invoquer des flux de particules extrêmement intenses pour les étoiles jeunes. C'est encore la région d'Orion. Ce sont ces fameuses observations qui ont duré une quinzaine de jours. Et voilà la correspondance entre les sources de rayons X que vous avez ici et les étoiles qui sont derrière. Voilà le fameux trapèze d'Orion. Ici, vous avez les étoiles vues par le télescope Hubble, et dans l'infrarouge, on arrive à mieux apercevoir la matière à travers le gaz diffus. Donc vous avez une excellente correspondance, pratiquement toutes les étoiles qui sont dans la constellation d'Orion émettent en rayons X, et non seulement ils émettent, mais vous voyez que ces rayons X sont extrêmement variables, voilà une sorte d'arbre Noël, 15 jours d'observation qui sont réunis en quelques minutes pour vous, vous voyez là, à quel point ça scintille de tous les côtés, bien, toutes ces scintillations sont en fait des éruptions de toutes ces étoiles, dont certaines sont extrêmement intenses avec des facteurs d'amplitude qui peuvent atteindre un facteur 10. Donc vous voyez, toutes ces étoiles ont des éruptions que l'on peut analyser et qui sont effectivement très semblables aux éruptions solaires. Et ceci est un phénomène qui était déjà connu, mais là qui a été vu de façon extrêmement spectaculaire. Quelque chose de très important aussi pour l'irradiation, c'est que grâce à une raie à 6,4 keV en rayons X correspondant à la fluorescence, qu'on a détectée dans un certain nombre d'objets, eh bien on peut affirmer que les rayons X irradient effectivement le disque protoplanétaire, c'est-à-dire qu'on a vraiment la preuve observationnelle que ces rayons X, et donc présumément les particules chargées qui vont avec, arrose le disque protoplanétaire. Alors on n'en voit pas beaucoup parce qu'il y a des questions de géométrie par rapport à l'observateur qui compte, mais enfin ce qu'il faut retenir, c'est que cette irradiation est une réalité et qu'on l'observe directement. Alors la galaxie radioactive, eh bien voilà dans la raie de l'alumium 26, alors via le magnésium, qui émet une raie gamma à 1,8 MeV, on a directement devant nos yeux la nucléosynthèse en action. C'est la voie lactée d'il y a environ 1 million d'années. Ici vous avez en bas la poussière, c'est-à-dire ce qu'on voit dans le visible sous forme de nuages sombres dans le ciel. Eh bien ici c'est l'alumium 26, donc ça a déjà été dit, l'origine est extrêmement complexe, ça peut être des novae, ça peut être des étoiles massives, ça peut être des supernovae, donc à partir d'une telle carte, c'est un peu difficile de savoir d'où il vient, mais ce qui est remarquable, c'est qu'un certain nombre de régions de formation d'étoiles sont associées à des émissions d'alumium 26. Vous voyez, j'en ai mis trois ici, Orion, dont on a déjà parlé, Ophiuchus, Cygnus, etc. Et donc, on peut faire une carte d'émission de l'alumium 26 dans ces régions, et on voit en fait que ces émissions sont associées à des étoiles massives qui sont voisines de ces régions de formation d'étoiles ici, et qui ont tendance à s'épancher dans des grands vides qu'on connaît sous forme de superbules dans la galaxie. Encore une autre région, alors là c'est une région de formation d'étoiles extrêmement active qui est dans la constellation du Cygne, s'appelle Cygnus X, et qui a été vue par le satellite Comptel, mais aussi par le satellite européen Intégral, qui a détecté très clairement une raie, ça c'est un scan de cette image, à 1,8 MeV. Qu'on voit aussi, c'est le fer 60. Alors ce fameux fer 60 dont on vous a beaucoup parlé, ça c'est une découverte parce qu'il n'avait jamais été vu dans la galaxie. Il a été vu par un petit satellite qui s'appelle RESI, qui était consacré aux rayons gamma du Soleil, et il a été confirmé par le satellite Intégral. Et ça a permis pour la première fois de pouvoir associer effectivement l'émission de restes de supernova avec des régions de formation d'étoiles sur le plan de la nucléosynthèse, avec un rapport fer 60 sur alumium 26 à peu près conforme à un facteur de près aux prédictions des modèles de nucléosynthèse. Donc les astronomes étaient assez contents de pouvoir directement prouver que le fer 60 était fabriqué dans les supernovae. Alors maintenant, pour pouvoir avancer sur la question de la supernova, sachant que le fer 60 est lié à une supernova, c'est là qu'arrive l'argument de temps de vie des disques. Il faut évidemment, pour qu'une supernova puisse irradier ou contaminer un disque, qu'elle arrive suffisamment tôt pour que le disque existe encore. Et ça me donne une estimation de la masse minimum de l'étoile qui a explosé. Parce que plus les étoiles sont massives et plus elles vivent peu de temps, et moins elles sont massives, et plus elles vivent longtemps. Et donc, avec un temps de vie de l'ordre de 5 millions d'années ici, vous voyez que l'étoile qui a explosé, si elle est unique, et si le système solaire est né dedans, doit avoir une masse d'au moins 40 masses solaires. Et si elle a une masse de 40 masses solaires, ça veut dire que, parce que j'ai appelé tout à l'heure la fonction initiale de masse, c'est un gros amas dans lequel il y a plusieurs milliers d'étoiles, environ 2000, ce qui ressemble à peu près à quelque chose comme Orion. Maintenant, on peut faire une modélisation de ce type d'amas en prenant le nombre d'étoiles, leur vitesse d'éloignement, leur répartition spatiale, etc. Bon, je n'entre pas dans les détails, j'ai malheureusement pas le temps, mais c'est le résultat qui est important, c'est que la probabilité que ces disques soient contaminés par la supernova est seulement de 1%. C'est-à-dire que l'ajustement des paramètres temps de vie de l'étoile massive, temps de vie des disques et radioactivité est tel que très peu de disques peuvent réunir ces chiffres de façon à être irradiés. Alors on peut aussi jouer sur le fait que dans une association d'étoiles massives, les étoiles massives vont exploser les unes après les autres et que donc on va avoir des supernovas multiples qui vont s'enchaîner les unes aux autres. Et en fait, on peut montrer qu'à ce moment-là, on monte le pourcentage à environ 10%. Ça reste très peu. C'est beaucoup moins qu'on ne pourrait l'imaginer a priori. Alors, des régions de formation d'étoiles dans lesquelles il y a actuellement des restes de supernovas, on en connaît, ça fait à peu près 10% de régions des étoiles massives. Par une sorte de hasard assez rigolo, ce sont parce qu'il y a des restes de supernovas, que les restes de supernovas sont à l'origine du rayonnement cosmique, ce sont des régions dont j'avais proposé il y a quelque temps qu'elles soient des sources de rayonnement gamma de haute énergie, et pour un certain nombre d'entre elles, ça reste vrai, et donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait un flux de rayonnement cosmique beaucoup plus élevé dans ces régions dans lesquelles il y a des supernovas en ce moment. Mais il peut y avoir d'autres possibilités, toujours pour en revenant sur Orion. Orion est connu pour être associé à une grande structure ici qu'on voit dans l'hydrogène ionisé, qu'on appelle la boucle de Barnard, dont certains ont proposé que ce soit un très vieux reste de supernova de l'ordre de quelques millions d'années. Ça n'a pas été démontré, mais si c'était le cas, alors à ce moment-là, on peut calculer, en fonction de l'âge des étoiles qui est connu dans la nébuleuse d'Orion, qu'environ 50% des étoiles, cette fois-ci, auraient été irradiées par cette explosion de cette supernova. Alors j'insiste sur le fait que dans ce cas-là, cette supernova serait associée avec une génération précédente d'étoiles dont on sait qu'elles existent dans Orion. Donc là, c'est peut-être un moyen d'augmenter la probabilité d'irradiation. Donc, en conclusion, très rapidement, d'abord sur la formation stellaire, on voit que toutes les étoiles très jeunes sont entourées de disques et de jets qui sont couplés magnétiquement, donc ça explique le mécanisme d'irradiation, le fameux vent X dont Mathieu Gounel a parlé. La durée de vie des disques est de l'ordre de quelques millions d'années seulement, et même éventuellement moins par un phénomène dont j'ai pas eu le temps de parler, qui est l'évaporation par les photons UV, voire par les photons X dans les régions d'étoiles de formation les plus massives. Anne Dutrait vous reparlera de ça tout à l'heure, en fin de matinée. Donc les disques sont fortement irradiés par les éruptions X, donc ceci fournit un cadre d'interprétation extrêmement séduisant pour les radioactivités éteintes, sauf pour le fer-60, bien sûr. Et donc on est sûr maintenant que le système solaire jeune a été contaminé par une supernova, disons proche si on suppose qu'il est né dans la même association, mais avec une faible probabilité pour cette irradiation. Et donc peut-être que le Soleil est né dans une super association OB, dite OB à cause du type spectro des étoiles les plus massives, qui sont de type O et B, donc plusieurs dizaines de masses solaires typiquement, très riches en étoiles, peut-être du type de celles qui émettent des rayonnements gamma à haute énergie. Ce serait assez amusant. Mais ce fer-60 pourrait être dû à une autre supernova, soit une supernova ambiante, et je sais que c'est l'hypothèse un peu favorite de Mathieu Gunel, qui a développé un modèle aussi qui conduit à une faible probabilité d'irradiation dans la même région de formation d'étoiles, ou éventuellement appartenant à une génération précédente d'étoiles massives. Donc la conclusion de base, peut-être celle que vous devriez emmener chez vous ce soir, c'est que le système solaire, le Soleil, est certainement né dans un amas d'étoiles dans lequel une supernova a explosé ou des supernovas voisines ont explosé. La question qu'on peut légitimement se poser aussi, c'est est-ce que ça fait du système solaire un système particulier? Et ça, je ne saurais pas répondre à cette question. Vous voyez que les probabilités pour que un système planétaire ne soit pas irradié par une supernova est très élevée. Elle est d'au moins de 50% et peut-être de 90%. Donc peut-être que même si nous sommes une sorte d'exception, finalement, ça n'a pas nécessairement de conséquences importantes sur la formation des planètes et éventuellement sur l'origine de la vie. Merci.
C'est la fin de la première partie d'une série de 4 émissions du colloque de l'Académie des sciences sur la formation du système solaire. Il avait lieu en février 2007 à l'Institut de France. Notre dernier intervenant, Mathieu Gounel, s'exprimait sur l'enfance des étoiles et notamment de notre Soleil. Nous vous invitons à poursuivre l'écoute de ce colloque sur Canal Académie pour tout savoir sur la formation des premiers grains, avant d'en venir à la formation des planétésimaux, puis des planètes, avant de terminer sur le futur des missions d'exploration du système solaire, des émissions en libre téléchargement sur canalacademie.com. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles émissions.